Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. José Naouège, il est journaliste et éditeur du journal Le Forum des As, séparé en Kinshasa. Bonjour M. José Naouège. Allô, bonjour Monsieur José Naouège. Ok, il n'est pas encore là. Monsieur Jean Assaka, membre de la société civile, il est premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kananga. Bonjour Monsieur Jean Assaka.
Bonjour Monsieur Guy Matin.
Et Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste, elle est membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Oui, oui, bonjour, bonjour, et merci d'avoir pensé à moi, et effectivement, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. José Naouège, journaliste. Il est éditeur du journal Forum des As, paraissant à Kinshasa. M. José Naouège, bonjour. Est-ce que vous êtes là?
Bonjour, cher confrère.
Ok, merci beaucoup. Et de M. Jean Assaka, membre de la société civile. Il est premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Central. Et de Mme Bernadette Kamango, journaliste et les membres de l'Union congolaise et des femmes des médias ICOFEM en sigle. Au menu de cette émission, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, la proposition de la loi qui verrouille certains postes de souveraineté aux seuls congolais nés des pères et des mères, appelée loi Tchani, et la nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise. Mais nous allons commencer par un commentaire sur la problématique du déploiement des troupes de l'EAC au Nord Kivu. En effet, c'est depuis lundi 3 avril dernier que les contingents ougandais de l'EAC s'est finalement installé sur sa base au centre de Bunagana, territoire de Rutshuru. Des sources locales affirment cependant que le retrait annoncé des rebelles du M23 de cette cité frontalière avec l'Ouganda ne s'est pas totalement achevé. Selon plusieurs sources, la situation de Bunagana reste confuse. Les militaires ougandais de l'EAC cohabitent contre toute attente avec les rebelles. De leur côté, les forces sud-soudanaises ont rejoint dimanche la force de la communauté est-africaine déployée dans l'est de la RDC pour faire observer un cessez-le-feu dans la province du Nord Kivu où les rebelles du M23 combattent l'armée nationale. Monsieur José Naouège, les Congolais n'hésitent plus à exprimer leur déception depuis qu'ils ont compris que les forces, n'est-ce pas, de l'EAC qui arrivent, ne viennent pas ou ne sont pas venues pour combattre les rebelles du M23. Mais en dépit de cette déception, ces forces continuent de se déployer sur le sol congolais. Et comment vous comprenez cela, Monsieur José Naouège?
Merci, cher confrère. Disons que on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'Est, en particulier dans la partie où se déploient les troupes de l'EAC, donc de l'East African Community, sans creuser d'abord dans la lecture que font les dirigeants politiques de la région et plus globalement la communauté internationale de la crise dans l'est du Congo. Cette crise qui est née pour nous de l'agression rwandaise, il n'y a pas de doute, une agression qui ne date pas d'hier, vous le savez, ça fait plus de 25 ans que le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda et considèrent l'est comme leur excroissance où, d'une part, ils gèrent les contradictions internes, ils les gèrent sur notre territoire, et d'autre part, ils pillent ces territoires. Et j'ajoute même, le troisième élément, c'est qu'on a le sentiment que le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda sont en fait la partie visible de l'iceberg. L'iceberg est constitué, et je ne vous apprends pas, de tous ces faisceaux d'intérêts étrangers qui ont mis la province du Kivu, disons plus globalement pour faire court, l'est de la République, en coupe réglée, voici un quart de siècle. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, après avoir posé la politique générale, c'est que là où nous parlons de l'agression via, selon la terminologie locale, via des rebelles du M23, hier qui s'appelait CNDP, avant-hier RCD, on peut remonter jusqu'en 1998, même 1996. Et là, ce que nous désignons par agression, les autres désignent ça par une crise.
Oui, mais on se rappelle que le fils du président Museveni a posté récemment une photo avec les rebelles du M23 en affirmant, je cite, « Les M23, ce sont nos frères et il ne faudrait pas les combattre ». Fin de citation. Monsieur José Nawel, je bien qu'il n'y a pas de fonction officielle actuellement à l'Ouganda. Les déclarations de cet officier de l'armée ougandaise ne résument-elles pas la perception, n'est-ce pas, de l'EAC sur le dossier M23?
Justement, je voulais justement en venir parce qu'on ne comprend rien si on ne pose pas les problèmes, on ne remonte pas aux racines du problème. C'est que il y a deux lectures qui se superposent. Il y a notre lecture, il y a la lecture des autres. Nous avons notre narratif de cette guerre, les autres ont les leurs. Et quand vous voyez tous ces envoyés spéciaux qui défilent à Kinshasa, ils ne disent pas ce que nous nous disons. Après les avoir dit des platitudes du genre « la souveraineté de la RDC n'est pas à discuter », ils ne le diraient pas. L'intégrité, etc. Mais ça, c'est le discours. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, ça donne quoi, cher confrère, pour être plus précis maintenant? Dans la pratique, ça donne que les forces de l'EAC qui viennent, ou qui sont censées venir à l'appel du seul gouvernement légitime ou légal, comme vous voulez, mais en tout cas le seul gouvernement congolais, mais ils viennent dans un pays qui dit nous faisons face à une agression. Deux, cette agression s'est faite notamment par l'entremise d'une rébellion bien identifiée qui s'appelle M23. Mais vous voyez, les forces qui arrivent, les forces ougandaises, vous venez de le dire, ils font, permettez-moi ce discours un peu, disons, léger, ils font ami-ami avec la rébellion, avec ce que nous appelons nous comme force terroriste. Donc il y a un problème.
Merci.
C'est que le verre est dans le fruit. En d'autres termes, je suis en train de dire que les forces de l'EAC, le président de la République, le nôtre, le président, avait dit, vous verrez bientôt, vous verrez ce que vous allez voir, parce que les forces de l'EAC vont commencer à venir. Vous vous souvenez de cette phrase. Le président l'a lâché. Parce que le président, même notre président, pensait, en disant cela, que les forces étrangères venaient ici pour épauler ce qui nous paraît d'une logique élémentaire, pour épauler les forces gouvernementales, comme ça se fait à travers le monde. Mais or, il s'avère que les forces de l'IAC disent matin, midi, soir qu'ils ne viennent pas comme une force offensive, qu'ils viennent pour permettre aux Congolais de s'entendre. Vous comprenez déjà la nuance. Et je termine. En fait, ce que les forces de l'IAC disent, ce n'est pas nouveau. Depuis que l'Est de la République sert de terrain de prédilection de tous les pillards du monde entier, Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a un traitement sui generis de la crise congolaise. Ailleurs, on ne met pas les forces gouvernementales et les forces rebelles sur un même pied d'égalité. C'est la première fois dans l'histoire de crise que tout est fait pour dire qu'il y a toujours un gouvernement qui doit traiter avec ceux qui rejettent la Constitution, ceux qui marchent sur la Constitution. Rappelez-vous, avant Saint-Titi, on disait il y a trois administrations au Congo. On le disait le plus naturellement du monde. En fait, dans ces pays, on a légitimé l'usage de la force comme moyen d'accession au pouvoir, ou moyen de faire pression sur le pouvoir. Et le « on » là, c'est qui? Il faut nommer les choses, c'est une certaine communauté internationale.
Merci, merci, M. José Naouej. M. Jean Asaka, certains experts avaient déjà pensé que les déploiements de ces forces dans l'est de la RDC pourraient déboucher sur la mise en place des zones d'influence de ces forces sur le sol congolais. Vous avez par exemple les troupes ougandaises qui se déploient dans certaines cités, notamment Bunagana, les troupes du Soudan du Sud qui vont s'établir à Rumangabo, les forces burundaises à Kirolire, des cités où les forces armées de la RDC sont absentes. Ce scénario de création des zones d'influence n'est-il pas en train de se concrétiser, M. Jean Asaka?
Oui, merci beaucoup pour pouvoir penser à moi. Je sais, je comprends, mon co-débatteur là, il a bien expliqué la chose, mais moi je voulais ajouter un aspect là. Je me pose des questions, je me demande l'intervention de cette force là, de l'EAC, ces gens, je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher au Congo, parce que quand nous voyons la guerre en Ukraine là-bas, nous voyons les Ukrainiens, ils n'ont pas les problèmes de troupes, ils ont les problèmes de munitions, de chars et consorts. Moi je me demande, un pays comme le Rwanda là, ça fait maintenant bientôt 30 ans, nous sommes en train de pleurnicher, parce que c'est ça le terme, nous sommes en train de pleurnicher pour dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Moi je pense qu'à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités pour comprendre que nous avons des troupes. Si vous regardez la population congolaise, elle est de loin supérieure, il n'y a même pas une comparaison à faire. Et pourquoi on doit aller chercher des troupes ailleurs? C'est la question que moi je me pose. Au-delà de ça, ces troupes-là, quand ces troupes viennent ici, ces troupes ne combattent pas contre les rebelles bien 23, ils viennent cohabiter avec cette rébellion-là. Donc moi, je ne comprends pas. Ça, c'est mon avis personnel. Je me dis que non, nous avons assez de troupes. Les troupes ne nous manquent pas pour qu'on puisse aller chercher des troupes. Mais on peut manquer peut-être les munitions, on peut manquer les armes et consorts, ça, c'est autre chose. Donc c'est ça ma lecture, je me dis, à un moment donné, on doit cesser de pleurnicher. Même si on prend l'armée rwandaise en termes de troupes, on peut comparer aux troupes de la RDC, je ne pense pas.
Merci. Merci Madame Bernadette Kamango. Comment vous réagissez à cette opinion répandue, hein? Une opinion selon laquelle le déploiement des forces de l'EAC est en train de consacrer avec beaucoup de subtilité les fameux projets de balkanisation de la RDC.
Bon, merci pour la question. Bon, ça devient de plus en plus compliqué cette histoire, si je peux dire. Je ne sais pas, moi je renchérirais en pensant, il y a un moment où on nous disait que la RDC était sous embargo des armes. Après ça, on nous a dit que l'embargo avait été levé. Et on a vu des Sukhoi un peu circuler dans l'est du pays, faire quelques actions. Et aujourd'hui, je me pose la question, mais au fait, où est passé cet embargo des armes? Qu'est-ce qu'on en a fait? Où sont passés les Sukhoi qui, en principe, devraient être de l'armement pour défendre le territoire congolais? Aujourd'hui, avec toutes ces forces qui viennent à gauche, droite, sud, est, ouest, nord, on n'arrive plus nous-mêmes à se retrouver exactement d'où ça vient. Finalement, j'ai l'impression que la RDC ressemble pratiquement à une belle femme auprès desquelles, bon, tout le monde peut venir essayer de se battre pour essayer de conquérir son cœur et s'installer auprès d'elle. C'est un peu ça, ça devient ça la RDC. Une RDC, vous savez, le Rwanda, dans quelques jours, va célébrer, je crois, les 29 ans de son génocide. Et toute cette situation, si on se rappelle bien sur le plan historique, a débuté à partir de 1994, quand justement la communauté internationale avait exigé à Mobutu à l'époque, le Zaïre de l'époque, d'ouvrir les frontières. Et tous les gens qui venaient là du Rwanda sont entrés avec tout ce qu'il faut, dont des armes. Et ces armes, jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons plus à nous en débarrasser. Et avec la politique actuelle qui est la diplomatie agissante, cette diplomatie agissante nous apporte, je veux bien, moi je suis parfaitement d'accord qu'il y ait des alliances, hein, parce qu'il y a certaines actions pour combattre quelque chose, on ne peut pas y aller seul, on est obligé de faire des alliances, d'appeler les amis à gauche à droite pour essayer de combattre. Mais là, je me pose mille questions, cette diplomatie agissante, aujourd'hui c'est Angola, demain c'est l'Ouganda, après c'est le Burundi, bon demain je ne sais pas encore si quel pays viendra se pointer à l'horizon, mais on étouffe quelque part, mais où est notre armée? Où est notre armée? Nous sommes un pays souverain, et notre armée qui figure parmi les meilleures armées de l'Afrique centrale, mais pourquoi sur terrain, pratiquement on ne la sent pas, on la sent plutôt étouffée, par rapport à toutes ces forces auxquelles on recourt pour nous sauver. Moi, je suis toujours d'avis que la meilleure façon de se défendre, c'est par soi-même. Nous avons des personnes, des compétences ici qui peuvent nous terminer tous ces conflits armés. Alors, on n'arrive plus à comprendre où est-ce qu'on en est. C'est comme ça, moi, je dépeins la RDC comme une belle femme à qui tout le monde veut faire la cour et puis venir avec tous ses bagages, on s'installe et on essaye de conquérir son cœur pour vivre à côté d'elle. Donc, pour moi, c'est un peu ça.
Merci. On prend une petite pause avec Paix sur Terre, une chanson de Frédéric François et on revient tout de suite après.
Enfoui en nous, qui fait qu'on se lève et tient debout. Une envie soudaine de crier je t'aime. On a tous un jour voulu briser nos chaînes, puisqu'on se ressemble comme un soleil. Apprendre à se connaître pour te faire comprendre. Tu as bien le droit de te faire entendre ici.
La terre, à travers cette chanson, Frédéric François parle de la paix sur la terre, la paix dans nos cœurs et la paix sans frontières. Frédéric François, cet artiste et musicien qui n'est plus à présenter, est un chanteur, compositeur italien francophone. Il nous a quitté malheureusement le 11 septembre 2022 à l'âge de 72 ans. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Le président de la République a chargé le gouvernement à œuvrer pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais. C'était lors du premier conseil des ministres du gouvernement Samadeu, vendredi 31 mars, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les taux d'échange ne cessent de prendre de l'ascenseur à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC. Cette situation entraîne une augmentation des prix des denrées alimentaires, mais aussi des biens et services. Monsieur José Naouège, vous êtes journaliste et éditeur du journal Forum des As, paraissant ici à Kinshasa. Et pourquoi avez-vous opté pour ces sujets?
Oui, j'ai opté pour ce sujet parce que ce sujet est au cœur de tout ce que nous disons. L'effritement du tissu national, le caractère extraverti du Congolais, et tout ça a pour toile de fond, justement, son économie. Et d'un point de vue marxiste, même si ce n'est pas toujours de bon ton maintenant de parler de Marx, les gens ne voient en Marx que l'idéologue, et d'abord un grand économiste. Un économiste qui, au contraire des autres, estime que l'infrastructure, et il n'a pas toujours tort, commande la superstructure. En d'autres termes, ma consoeur parlait de nous avons une grande armée, notre frère qui est au Kassai de la FEC a dit ça aussi. Mais ça ne suffit pas. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut d'abord avoir une économie forte. Un pays fort, c'est celui qui a une économie forte. Et une économie, elle est forte quand, dans un pays, on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Or, justement, chez nous, pour répondre à la question, tout notre drame, ce constat du franc congolais qui se déprécie par rapport au dollar, c'est un constat qui est vieux comme le monde, du point de vue congolais, donc ce n'est pas nouveau. La raison est la même, c'est que ce constat-là traduit et trahit, les deux, traduit et trahit le caractère extraverti de notre économie. Quand on ne produit pas ce qu'on consomme, c'est difficile qu'on ait une monnaie forte. Quand on n'a pas de monnaie forte, c'est difficile qu'il y ait pouvoir d'achat, c'est difficile que la situation économique du pays s'améliore. Une chose est de suivre les chiffres qu'on nous donne à longueur de journées, même d'années, par les différents gouvernements sur le cadre macroéconomique qui aurait été assaini, sur ceci, sur cela. Mais tout ça n'a aucune légitimité si la maman qui regarde, nous avons une consoeur parmi nous, si le panier hier, aujourd'hui le sachet de la ménagère, est toujours vide. Tout ça n'a aucune légitimité et si l'équation individuelle, l'ordinaire du Congolais, ne s'améliore pas. Donc c'est là le cœur de notre problème. C'est pourquoi j'ai choisi ça. Et même nos gouvernements, si nos gouvernants échouent, si on a le sentiment de refaire la même chose depuis des années, depuis des lustres, c'est parce que précisément la question économico-sociale n'est pas résolue. La vraie question économico-sociale, c'est-à-dire l'ordinaire du Congolais, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Je ne parle pas des chiffres que tout le monde aligne, c'est des chiffres très sympathiques, c'est des clignotants qui sont ouverts, mais ils sont ouverts sur papier, ils ne sont pas ouverts dans les paniers de la ménagère ou plus trivialement dans les ventes du Congolais.
Merci, monsieur Jean Asaka. Vous êtes membre de la société civile et premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kassai Central. Parmi les conséquences de cette dépréciation, il y a cette inflation qu'on constate sur le terrain. Et il est dit que les opérateurs économiques en profitent pour fixer les prix de manière exagérée. Vous êtes justement parmi ces opérateurs économiques. Comment vous réagissez à cette opinion?
Oui, merci pour la question, mais le problème c'est que les conséquences de la hausse des prix n'est pas seulement due à la dépréciation de la monnaie nationale. Je suis très content pour l'exposé de mon confrère journaliste là.
José
Naoué, il a bien expliqué la chose. Ma contribution c'est de dire qu'il y a aussi un problème d'approvisionnement, comme chez nous ici, à l'intérieur du pays, mais c'est un problème général partout. En RDC, nous n'avons pas de voies de communication, nous n'avons pas de routes. La SNCC qui devait relier le nord et le sud ne fonctionne pas. Donc, tout cela a un impact négatif sur les prix. Moi, j'ai appris même au niveau du Katanga où on devait se ravitailler, il y a flambé de prix. Vous imaginez même le maïs, parce que quand on ne sait pas produire ce qu'on consomme, vous voyez, le maïs maintenant ici, à Lubumbashi, le maïs est allé de 25 000 francs, les sacs de 25 kilos, à 50 000 francs, vous voyez. Et là, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la dépréciation de la monnaie nationale, parce que cette dépréciation peut être de l'ordre de 5 ou de 10%. Mais quand les prix augmentent du simple double, donc vous comprenez à ce moment-là, ce n'est pas seulement la dépréciation de la monnaie nationale. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire à ce niveau-là. Je suis content de tout ce que mon co-débatteur a dit. Il a étalé les problèmes. Le problème du Congo, il est profond. Nous n'avons pas une économie stable. Notre économie est très fragile. Et nos politiciens, ils s'attellent toujours à nous donner des chiffres. Ils sont très forts pour les chiffres. Ils vous donnent des chiffres, vous comprenez même que non, au Congo, ça va, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire que le pays avance bien, il y a la production. La production, là, c'est les minerais. Les minerais, on ne les consomme pas. Alors, vous allez baser votre économie sur les minerais. Vous voyez un peu, c'est très fragile, parce que les minerais, ce n'est pas comme les maïs où, quand vous les consommez, vous allez cultiver l'année prochaine. Les minerais, comme chez nous, au Kasaï, les minerais, on avait les diamants. Et là où il y avait les diamants, il n'y a que les érosions. Tout le gouverneur qui vient là-bas, il souffre parce que les Blancs, là où ils ont creusé les diamants, les Belges, pour le moment, il n'y a que les érosions parce qu'il n'y a plus de minerais. Ils ont creusé jusqu'à aller en profondeur. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons les conséquences des érosions. Non, on ne peut pas baser l'économie sur les minerais. C'est ça la conséquence. Il fallait qu'il y ait une production constante pour que nous puissions parler de notre économie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la RDC.
Merci, Madame Bernadette Kamango, journaliste. Vous êtes membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Les experts lisent cette situation, même Monsieur José Naoué et Monsieur Jean Saka ont commencé à le dire. Ils les lient au fait que nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Et c'est vrai que pour le moment, la RDC fait face à plusieurs défis. Mais est-ce qu'il est vraiment impossible que le gouvernement congolais mette en place une stratégie qui puisse permettre à la RDC de produire et d'exporter plus au lieu de continuer à importer plus?
Bon, je pense que d'abord je suis contente qu'il y ait quelqu'un de la FEC ici parmi nos co-débatteurs. C'est vrai que c'est toujours la même chanson habituelle, voilà, l'économie congolaise est extravertie. C'est une chanson qui est chantée depuis des années et des années jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on chante cette chanson, on n'a jamais essayé de s'asseoir comme il faut et de taper du poing sur la table et de se dire non, voilà, à partir d'aujourd'hui, on change les choses. Je retiens qu'il y a dernièrement au Parlement, on avait convoqué l'ex-ministre de l'économie et on a fait tomber l'ex-ministre de l'économie, soi-disant qu'il ne savait pas gérer la situation économique du pays. Nous sommes restés sans aucun ministre jusqu'à aux dernières nominations effectuées par le chef de l'État et qui maintenant nous a nommé son Excellence Vital Kamerhe en tant que ministre de l'économie. Dernièrement, j'ai suivi la réunion ministérielle avec les économistes. Je pensais qu'au sortir de cette réunion, on allait nous annoncer, non, à partir d'aujourd'hui, comme nous avons un nouveau ministre, désormais, il y a ça qui va se passer pour relever la situation économique. Mais, bon, j'ai vu des paroles là qui nous ont dit que l'espoir est permis. D'accord, l'espoir fait vivre, on le sait. Mais je pense que dans tout ça, c'est juste un problème de volonté, vraiment volonté économique. Nous sommes dans un pays prioritairement agricole. À l'époque, on a de Mobutu, c'était l'agriculture priorité des priorités. Aujourd'hui, bon, nous ne savons plus exactement cette agriculture, ce qu'on en fait, mais je pense qu'il appartient au gouvernement de pouvoir prendre ses responsabilités face à cette économie trop extravertie. Aujourd'hui, aller au marché, c'est devenu intenable. Moi-même, tel que vous me voyez, le pain qui était à 500, aujourd'hui à 700 francs. Je me suis carrément décidée de fabriquer mon propre pain à la maison. Mais quand je pense au pain aussi, je pense que le chef de l'État, je pense que ça devait être en Égypte ou quoi, avait promis qu'en RDC, on allait s'en sortir avec la fabrication du pain à base de manioc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si cette politique reste. Or, si vraiment on faisait un peu plus d'attention à l'agriculture plutôt qu'aux mines, la population ne se plaindrait pas, on aurait de quoi manger et puis inciter aussi à la population de s'intéresser à l'agriculture. Parce que jusqu'à présent, l'agriculture pour le Congolais, c'est le visage pauvre. On présente l'agriculture comme étant un secteur là des pauvres. Mais si on présentait l'agriculture comme un secteur des riches, voyez un peu en Israël, toujours en guerre, un pays perpétuellement en guerre. Mais c'est l'un des pays les plus riches et cette richesse, elle est tirée d'où? Donc les pays se construisent autour de l'agriculture et nous pensons qu'il est temps que le gouvernement frappe sérieusement du poing en mettant l'agriculture priorité des priorités, comme on l'a toujours chanté, et qu'on cesse un peu de toujours pleurnicher avec cette phrase de dire que l'économie congolaise est extravertie. Merci. Qu'on arrête un peu cette chanson et qu'on prenne d'autres dispositions.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter Mwanampo, qui n'est pas une nouvelle chanson, mais qui est liée à cette actualité relative à la dépréciation du franc congolais. Et on revient après.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque semaine, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la problématique du déploiement des troupes de l'EAC au Nord Kivu. Nous avons également analysé la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Participe à cette émission, M. José Naoué, il est journaliste et il est éditeur du journal Forum des As, paraissant à Kinshasa. M. Jean Asaka, membre de la société civile, il est premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Kassai Central. Et Mme Bernadette Kamango, journaliste, elle est membre de l'Union congolaise des femmes et des médias, ICOFEM en sigle. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, se disent vivement préoccupés par la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition des lois Tchani qui réserve les postes de président de la République aux seuls Congolais des pères et des mères. Dans une mise au point, le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donatien Cholet, a estimé que cette loi menace la cohésion nationale et son vote risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser le peuple. De son côté, l'ONG, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, demande au Parlement de rejeter la proposition de la loi relative à la nationalité congolaise. Elle est jugée inopportune par la VSB en ce moment précis et anticonstitutionnel selon l'avocat Jean-Marie Kabengela Ilunga. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse co-animée mercredi 4 avril au siège de la VSB. Pour leur part, la Fondation Bill Clinton pour la paix et les collectifs des ONG des droits de l'homme en RDC disent non à la proposition de la loi Tchani qui consiste à réserver des postes dits de souveraineté aux seuls Congolais nés des pères et des mères. Dans une déclaration faite à la presse le même mercredi à Kinshasa, ces activistes des droits de l'homme qualifient cette proposition des lois de discriminatoire. Ils appellent les députés nationaux à ne pas la voter en vue de privilégier la cohésion et la paix sociale voulue par tous. Madame Bernadette Kamango, quelle lecture vous faites de la polémique autour de cette proposition des lois dite loi Tchani?
Je pense que tout d'abord que c'est un peu regrettable qu'on puisse essayer de nous proposer ce genre de loi que moi personnellement je juge effectivement discriminatoire, pendant que le pays est encore en train de s'arracher les cheveux pour savoir comment se débarrasser des groupes armés à l'est du pays. On vient ici à Kinshasa nous distraire avec ce genre de proposition qui, pour le moment, je pense que n'est pas du tout opportune parce que la RDC a vraiment d'autres soucis que de se pencher sur ce genre de loi qui, selon les avis des uns et des autres, chercherait à pouvoir éliminer certains candidats aux prochaines présidentielles. Mais si on doit réfléchir de cette manière, c'est un peu regrettable, tout simplement parce que une loi, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour essayer d'éliminer telle ou telle personne parce que sa tête ne vous plaît pas, donc vous essayez de l'éliminer. Non. Si la loi tombe, c'est que ça s'adresse à tous les Congolais et malheureusement à tous ces Congolais qui ont d'autres nationalités. Moi, je me réfère à la Constitution, qui est la loi fondamentale. En son article 6, si je me trompe pas, il est textuellement écrit ceci, qu'il n'existe qu'une et une seule nationalité attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908. Non seulement ça, notre loi congolaise attribue la nationalité congolaise par naturalisation, par option, par adoption, par le fait du mariage, par la naissance et même par le fait de la résidence ici au Congo. Donc maintenant, si nous avons des personnes non congolaises qui, comme ça se passe aussi avec les Congolais qui quittent le pays et qui prennent la nationalité d'autres pays, qui se jugent bon de vouloir prendre la nationalité congolaise. Alors, il devient Congolais soit par option, je ne sais pas, de mariage, je ne sais pas de quelle manière, ces enfants qui naissent de cette acquisition de nationalité, ce sont nos enfants ou ce ne sont pas nos enfants? Parce que la loi précise bien qu'on est Congolais soit de deux parents congolais, soit d'un parent congolais. Donc, dans le mariage, s'il y a un parent qui est congolais, automatiquement, vous êtes congolais. Bon, moi, je ne comprends pas. Pour moi, cette loi, personnellement, n'est pas vraiment la bienvenue. C'est une loi qui va nous apporter des problèmes, parce que si on la vote aujourd'hui, mais il faut aussi penser à l'avenir du pays. Le pays va en allant en avant. Le pays ne va pas en allant en reculant. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir quand cette loi va commencer à gêner?
Oui, Madame Bernadette, que répondez-vous à cette opinion qui estime que cette loi tombe à point nommé en utilisant l'argument selon lequel les institutions du pays ont été profondément infiltrées et que si cette loi est adoptée par les parlements, ça va permettre à la RDC de protéger ses institutions?
Bon, l'infiltration dont tout le monde fait référence, bon, il faut encore aussi bien apporter les preuves en bonne et due forme que le pays est réellement infiltré. C'est vrai, il y a des problèmes dans le pays. Donc, il suffit, par exemple, que tu aies une certaine physionomie directement, on te taxe d'un étranger ou bien d'un nom qui ressemble pas à un nom congolais et on te taxe automatiquement de n'être pas congolais. Il faut faire très très attention avec ce genre de jugement. Si on va seulement par la simple allusion que les hautes institutions du pays seraient infiltrées, encore faudrait-il faire le travail de savoir qui a infiltré ces institutions, les découvrir, les faire quitter ces institutions, et puis apporter les preuves en bonne et due forme que tel c'est un étranger, tel c'est un Congolais. Donc c'est vraiment très dangereux, puisque à travers ce genre de position aussi, il y a des règlements de compte qui se font. Tel est Congolais, mais on va le taxer de telle ou telle nationalité, tout simplement pour se débarrasser de lui. Et on le voit dans les réseaux sociaux. Oh, Vital Kamerhe et ceci. Oh, Bemba et ceci. Oh, Patati Patata et ceci. Tout ça, il faut. Donc, c'est très, très, très dangereux si on doit commencer à raisonner de cette manière. Je pense qu'il serait beaucoup mieux de chercher un terrain d'entente, voir qu'est-ce que nos lois disent, et par rapport à nos lois, essayer de juger chaque cas et réellement voir si réellement aussi il y a infiltration des non-congolais au sein des institutions.
Merci. Merci, M. Jean Assaka. Vous l'avez suivi, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, pense que cette loi menace la cohésion nationale et son vote risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser le peuple. Il y a également l'ONG La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme qui juge cette loi inopportune en ces moments-ci et anticonstitutionnelle. Et aussi la Fondation Bill Clinton pour la paix et les collectifs des ONG des droits de l'homme en RDC qui appellent les députés nationaux à ne pas voter pour cette proposition de loi en vue, n'est-ce pas, de privilégier la cohésion et la paix sociale voulue par tous. Comment vous réagissez à tous ces points de vue, M. Jean Assaka?
Merci beaucoup. Je remercie ma co-débattrice, Mme Bernadette. Elle a passé tout en revue. Elle a même dit que nous devons respecter notre constitution. Mais encore une fois, vous voyez un peu le niveau de la classe politique congolaise. Parce que là, moi je parle en tant qu'opérateur économique, bien que je sois de la société civile, mais nous avons connu beaucoup de déboires avec nos politiciens. Vous voyez un peu, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, ces gens, ils sont en train de nous mettre un peu en distraction pour essayer un peu de créer des situations de confusion. Ça, c'est une confusion totale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette histoire des Congolais, des pères et des mères, c'est l'actualité qu'on pouvait avoir dans notre pays? Donc moi, je pense que ces gens, ils n'aiment pas le pays, il faut les voir. Parce que déjà, nous avons d'autres problèmes. Nous avons beaucoup de tribus. Nous devons avoir une cohésion nationale. Mais c'est pendant ce temps-là que nous avons une première alternance, que nous sommes en train d'observer comment ça va se passer, qu'ils sont là en train de conduire des grandes jeeps, ils se partagent de l'argent, et ils sont là en train de distraire la population, ils sont avec une histoire là. Oh non, voilà, Congolais de père et de mère. Ça, c'est une distraction. Et moi, je pense, moi, ça c'est mon point de vue. Aujourd'hui, le Congolais n'a pas besoin de ça. Qu'ils cessent de nous distraire. Ils nous ont distrait pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça fait déjà 60 ans que nous avons notre indépendance. Quand on avait les gens qui venaient ici, donc les Belges, consoles, les étrangers dont ils parlent là. Mais ce pays était quand même bien géré. Parce que nous apprenons, même si on n'était pas encore nés. Mais moi, j'étais là depuis les années 70, j'ai vu en 79, 80, qu'est-ce que ce pays était. Il y avait des routes. À Kananga, ici, il y avait des routes, même au fond, vous allez aujourd'hui, vous trouvez, il y a des goudrons partout. Qui ont mis ces routes-là? Aujourd'hui, ils viennent pour nous distraire. Moi, je pense que nous avons besoin de tout le monde. Vous avez vu, même dans tous les pays, même aux États-Unis, on ne parle plus de ces choses-là. Aujourd'hui, les États-Unis se sont développés avec tout le monde. Les gens qui viennent en Inde, les Congolais qui sont là-bas, les Africains, tous ces gens, ils sont là pour construire les États-Unis d'Amérique que nous appelons aujourd'hui grande puissance. Donc ce n'est pas le temps aujourd'hui de commencer à distraire les gens, parce que aujourd'hui, si le pays est ce qu'il est, nous avons détruit notre pays. C'est les Congolais de père et de mère, de 100% là, qui ont détruit ce pays. C'est que l'étranger qui l'a fait. Non, 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 en tout cas, cette affaire-là n'est pas la bienvenue dans notre pays. Moi, je pense que cette loi-là, je pense qu'elle peut être à jour.
Merci. Merci, M. José Naouej. C'est un débat qui semble plus opposer les acteurs politiques, mais apparemment, c'est des organisations de la société civile qui s'expriment davantage au sujet de cette loi. Et on constate qu'ils sont peu, n'est-ce pas, les acteurs politiques qui évoquent publiquement cette question. Comment vous comprenez cela, M. José Naouej?
Oui, je voudrais dire trois mots avant d'arriver à répondre précisément à votre question, cher confrère. Je crois d'abord, et nous, nous sommes en train de perdre notre temps en parlant de cette question. C'est d'abord une perte de temps. J'observe ça. J'observe la deuxième. Vous avez dit ici que cette loi était une espèce d'antidote à l'infiltration du pays. Mais je note que depuis 1996, d'abord par rapport à l'infiltration, les différents présidents des mouvements rebelles, je crois la quasi-totalité, si je ne m'abuse, je n'aimerais pas citer le nom, nous sommes journalistes, vous pouvez chaque fois mettre le nom, depuis que les rébellions ont commencé dans ce pays, les rébellions burgeoises, bien sûr, parrainées par l'étranger. Ces rébellions-là ont toujours eu à leur tête, si je ne m'abuse, des Congolais de père et de mère. Ces rébellions-là, vous pouvez remonter maintenant, chaque fois mettez un nom. C'est pas le numéro 2, le numéro 1. C'est un Congolais de père et de mère qui prend les armes contre son propre pays. Est-ce que vous allez me parler d'infiltration en ce moment-là? Je prends l'économie du pays. Prenez l'histoire de malversations financières. Prenez l'histoire de détournement de deniers publics. Vous êtes journaliste. Commencez à mettre des noms, à incarner ces détournements. Vous verrez que dans la plupart des cas, dans 99% des cas, c'est des Congolais de père et de mère. Prenons, pour être plus contemporain, j'ai presque envie de dire, la situation actuelle. Le dividende électoral derrière lequel nous courons toujours. On a eu des élections, ça fait trois fois qu'on a eu des élections, mais jusque-là, l'électeur ne s'est toujours pas retrouvé. Mais qui se retrouve dans ce jeu électoral? C'est des élus. Qui se servent? C'est des élus, au lieu de servir. Mais ceux qui se servent, il y a quelqu'un qui a parlé de Jeep, on peut parler de beaucoup de choses, mais qui se sert? C'est des Congolais de père et de mère. Donc, c'est une bonne entrée en matière. Nous devons nous garder d'essentialiser le débat. Essentialiser au sens philosophique du terme. Ce n'est pas parce qu'on est né d'un parent étranger qu'on est forcément meilleur ou plus patriote que celui qui serait né de deux parents congolais, et inversement. Le patriotisme n'est pas le fait de la naissance. Le patriotisme, c'est le fait d'autres paramètres. Vous pouvez voir un Congolais qui n'a ni père ni mère congolais, mais qui pose des actes dans ce pays, de loin plus louable qu'un Congolais né de père et de mère, mais qui a passé tout son temps, quand il est dans des responsabilités publiques, à détourner, à trahir son pays. Et inversement. Donc, gardons-nous d'essentialiser. Mais ce que je note, et ça revient auprès de mes co-débatteurs, ils ne le disent pas clairement, c'est que ce débat trahit et traduit encore la fameuse médiocrité de notre classe politique. Souvenez-vous, il y a plus de 30 ans maintenant, quand M. Abdoulaye Ouad, qui est encore en vie, il est venu ici pour faire la médiation dans nos crises à nous, ça ne date pas d'hier, il constate que la classe politique est médiocre et il le dit. Madame Melissa Wells, heureuse mémoire, ambassadeur des États-Unis ici dans les années 90, elle dit d'un mot, une formule qui est restée célèbre, les journalistes de notre âge se souviennent facilement, elle dit, sur la classe politique congolaise, je suis en train de répondre à ta question maintenant, il y a plus de chaleur que de lumière. C'est ça justement le problème. Nous sommes en permanence dans ce qu'on appelle la politique spectacle. Pourquoi on est en permanence dans la politique spectacle? Parce qu'il n'y a pas de substance. parce qu'il n'y a pas de discours qui se nourrissent du corpus idéologique. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. C'est de la politique spectacle, c'est de la politique du type digestif. Et ça donne quoi? Ça donne justement ces genres de lois à la tête du client. Ces genres de lois conjoncturelles au lieu de lois structurelles. Ça donne quoi? Ça donne des lois à géométrie variable. On est moins congolais aujourd'hui parce qu'on est dans tel camp politique. Demain, quand on était ensemble, on était parfaitement congolais. On sert de l'être parce qu'on n'est pas avec moi. Et vous voyez le temps. Les juristes parlent d'une tempore non suspecto. Il n'échapperait à personne que le temps est politiquement très suspect. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais maintenant, le problème, est-ce que nous devons sacrifier l'intérêt général pour des intérêts égoïstes, à savoir que nous ne voulons pas de tels leaders politiques parce qu'il gêne, parce qu'il est susceptible d'être candidat à la présidence et peut-être même de gagner, pourquoi pas? Et donc, il faut l'écarter par des voies tout à fait anticonstitutionnelles. Pas seulement anticonstitutionnelles, la constitution c'est le texte, mais par des voies susceptibles, j'ai rejoint tout à fait les évêques, mais il n'y a pas que des évêques. Tout congolais de bon sens, il voit bien que les tissus sociaux, la cohésion nationale, c'est quelque chose de très fragile chez nous, dans ce pays aux allégeances multiples, dans ce pays aux mille et une ethnies, aux mille et une tribus. Et vous savez que quand vous commencez à exclure des gens sur base, au fond, je termine, celui de Faciès, mais vous risquez d'avoir affaire, c'est un peu comme un médicament qui s'avère plus dangereux que le mal, entre guillemets, qu'il est censé guérir. Donc, il faut faire attention à l'effet boomerang qui risque d'être à très large spectre.
Merci, on a compris. On va prendre une petite pause en écoutant Chiquitita de Abba et on revient tout de suite après.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and sad. I am Chiquitita, you and I know.
Un classique de l'orchestre Abba, ce groupe mythique suédois qui a fait parler de lui pendant les décennies 70 et 80. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Regard sous la tutelle de la semaine en RDC qui reçoit aujourd'hui M. José Naoué, journaliste et il est éditeur du journal Forum des As, c'est paru à Kinshasa. M. Jean Asaka, membre de la société civile et le premier vice-président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Central, et de Mme Bernadette Kamango, et les journalistes et les membres de l'Union congolaise des femmes et des médias ICOFEM en sigle. Le chef de l'État a procédé à la nomination et mise à la retraite de plusieurs officiers de la police nationale congolaise PNC. Les noms des officiers concernés sont repris dans une série d'ordonnances présidentielles signées le 28 mars et lues samedi 1er avril dernier à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. L'ancien vice-gouverneur de l'Ituri, Alonga Boni, a été nommé commissaire général de la police nationale congolaise. Il remplace à ses postes Dieudonné Amouli Baïgwa, admis à la retraite. Des nouveaux commandants ont été également nommés dans les différentes directions générales et services spécialisés de la police et d'autres permittés. Monsieur Jean Asaka, qu'est-ce qui vous a motivé, n'est-ce pas, en optant pour ces sujets?
Oui, merci, parce que la question de la sécurité nous préoccupe nous tous, surtout nous les opérateurs économiques, parce que maintenant au Congo, si vous êtes devant un agent de la police, directement vous êtes dans l'insécurité. Donc, ces nouvelles nominations, pour moi, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème, parce que le problème de la police nationale, le problème est profond. Si vous regardez d'abord comment cette police est entretenue, le social de ces policiers. Bon, aujourd'hui, pour ne parler que des nominations, mais au Congo profond, là, vous avez des policiers qui sont devenus des chefs coutumiers. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, il est là-bas, et c'est son village, c'est lui qui fait la loi, et c'est-à-dire qu'il ne sera jamais permitté. Mais aujourd'hui, on se limite seulement à changer les hauts gradés, tout ça, mais le Congo profond, c'est grave. Alors, vous regardez la dotation de cette police-là. Si nous reculons, vous allez voir que cette police a été dotée depuis 2016. C'est à ce moment-là qu'on avait équipé notre police avec la nouvelle tenue, avec les bottines. Donc, depuis 2016, vous comptez maintenant, ça fait plus de 5 ans. Donc, voilà, oui, tant que les policiers ont la même tenue-là, qui a même changé de couleur. Aujourd'hui, ils sont confondus au Kuruna, parce que la tenue est devenue un peu ce qu'elle est, avec plus de 6 ans. Vous portez les mêmes habits pendant 6 ans, vous comprenez que ça ne marche pas. Cette police n'est plus à mesure de nous sécuriser, parce que même s'il y a des véhicules qu'on envoie, mais il n'y a pas les frais de fonctionnement pour sécuriser la population, parce que vous envoyez des jeeps, des nouvelles jeeps, oui, mais quand il n'y a pas les carburants pour mettre dans ces jeeps qui suivent. Au-delà de ça, vous allez voir les salaires même de nos policiers, c'est déplorable, parce que vous ne pouvez pas attendre de résultats quand vous payez très mal vos agents de sécurité qui ne touchent à peine que 200 000 ou 230 000 francs congolais, quelqu'un qui a une famille à nourrir.
Merci. Monsieur José Naoué, l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé que plus de 13 000 nouvelles unités seront recrutées prochainement dans la police nationale. Et à votre avis, qu'est-ce qui serait prioritaire actuellement? Recruter de nouvelles personnes ou se pencher d'abord sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles de ceux qui sont déjà là?
Je crois que poser la question, c'est y répondre après tout ce que vous avez entendu et ce que vous savez vous-même. Ça veut dire que la problématique fondamentale, c'est mieux des policiers. Et pas nécessairement plus de policiers. Vous comprenez très bien et que c'est ça notre problème. Et nous, Congolais, nous avons l'art de mettre la poussière sous le tapis. Et est-ce que la question fondamentale, c'est d'augmenter le nombre de policiers ou c'est d'abord de mieux encadrer les policiers que nous avons? Ça saute aux yeux que c'est d'abord l'encadrement de ceux qui sont là. Il en va de la police comme de l'armée. Ça répond à cette espèce de triptyque qu'on connaît dans toutes les armées du monde, dans toutes les polices du monde, à savoir les hommes, la formation et la logistique. Tout se ramène à ça. Vous voulez avoir une grande armée, il faut des hommes. Mais les hommes seuls ne suffisent pas. Il faut de la formation. Mais la formation seule ne suffit pas. Il faut de la logistique, ce qu'on appelle l'intendance. Et dans l'intendance, vous avez l'équipement. Dans la logistique, vous avez le social. Et la difficulté chez nous, c'est que on nomme des gens, mais l'intendance ne suit pas. Prenons des exemples concrets. Une ville comme Kinshasa, qui est à la merci de Kuluna. Une ville comme Lubumbashi, où on tue même la journée maintenant. Tu es devenu banal à Lubumbashi.
et sous la barre de la police. Mais une fois qu'on a incriminé le policier, le vrai problème apparaît, à savoir, le policier, là, est-ce qu'il est mis dans des conditions pour opérer? Tout le problème est là. Même à Kinshasa, on peut changer de commandant comme on veut. Mais si le commandant a des troupes, mais ces troupes n'ont pas de logistique, eh bien, les mêmes mots AUX vont continuer et nous aurons les mêmes mots OTS pour les décrier. De la même manière, à propos du maillage territorial de la ville, nous avons notre compatriote qui est au Kassai, qui est dans le pays réel, comme pour parler du pays réel et pays légal, qui est dans le pays réel. Vous vous rendez compte qu'en plus vous venez de Kinshasa, plus le pays est sous-administré. Le pays est sous-administré pourquoi? Précisément parce que les moyens ne suivent pas. On vous nomme patron de la police à Kenge, mais on vous oublie. On ne vous donne rien. Que l'État fasse sa part. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Merci. Madame Bernadette Kamango, la problématique Kuluna est l'un des éléments, n'est-ce pas, sur lesquels on a tendance à évaluer l'action de la police nationale. Il y a également la situation dans certains coins de la République, notamment dans les Kwamout. Qu'est-ce faut-il pour, selon vous, qu'est-ce faut-il pour amener la police congolaise à accomplir ses missions comme il se doit?
Bon, c'est vrai qu'on vient d'assister à des nouvelles nominations. Bon, c'est comme on dit, c'est pas une mauvaise chose, mais tout ce que la population congolaise attend de la police, c'est qu'elle assume son rôle. Et son premier rôle, c'est de sécuriser la population. Comme vous venez de le dire, à Kinshasa, donc il y a le phénomène Kuluna qui prend de plus en plus de l'ampleur, alors qu'à un certain moment, on nous avait dit qu'avec le programme de Kanyamaka, c'est le phénomène Kuluna allait totalement disparaître, mais au contraire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour que ce phénomène-là ressurgisse. Mais en dehors de ça, il y a encore beaucoup d'histoires, comme par exemple des enlèvements à Kinshasa. Et puis non seulement ça, il y a aussi la qualité des policiers, parce que je vous ai entendu dire qu'il y aurait un recrutement de 13 000 nouvelles agents au sein de la police. On veut bien que ces recrutements se fassent, mais quelle est la base, les critères de recrutement de tous ces agents? Parce que quand on a affaire à un policier, particulièrement ici à Kinshasa, bon, on se dit directement, bon, excusez-moi pour les termes, c'est pas que je voudrais offenser la police, mais quand on a affaire à un policier, directement, on voit un voleur. C'est ça. Et puis, c'est l'image que la police renvoie d'elle. Quand on voit un policier, on se dit, non, le policier n'a pas d'argent, donc il faut lui donner un petit quelque chose. Mais alors, c'est bien de restructurer la police, de faire des nouvelles nominations, mais qu'on puisse aussi penser à restructurer aussi le social de ce policier. Que ce policier soit comme dans les autres pays à l'étranger. Quand on arrive dans d'autres pays, dès que tu entends parler de la police, rien que le mot police, les gens commencent à paniquer. Mais ici à Kinshasa, dès qu'on voit la police, oui, on va plutôt paniquer puisqu'on va se sentir dans l'insécurité. Ce sont plus des agents de l'insécurité que des agents de la sécurité. Donc tout ce que nous demandons à la police, quelle que soit la personne qui les commandements de la police, la personne qui va gérer cette police, qu'elle assure à la population congolaise que, à partir d'aujourd'hui, vous serez sécurisés, vos biens, votre personne, vos familles, vous pourrez rentrer même à 1h du matin, à 5h du matin dans vos maisons sans aucun problème, que quand vous croisez un policier, soyez sûr que c'est la sécurité que vous avez en face de vous et nous la sécurité. Donc la seule chose qu'on demande à la police, sécurisez-nous. Et puis, pensez au social du policier. Quand je circule dans la ville de Kinshasa, on voit des policiers qui habitent des conteneurs qui font le visage de pauvres. Pourquoi ne pas essayer de mettre une petite peinture, de mettre un ameublement convenable à tous ces policiers qui assurent justement notre sécurité? Pourquoi ne pas les équiper? Parce que le problème des phénomènes Kuluna aussi, c'est que la police ne sait pas se défendre face aux Kuluna. Quand la population va se plaindre par rapport à ce phénomène, la police vous répond qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont même pas ne fût-ce qu'un petit vélo pour aller courir après ces Kuluna.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Jean Saka, Monsieur José Nawej et Madame Bernadette Kamango. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et de Deps Vita. À la réalisation, Lèche Walassa, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougeri. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Et on se sépare avec Okosingan Fumu de King Kester Emenea, leader de l'orchestre Victoria Eleison, chanson éditée en 1984. Et on se retrouve le samedi prochain.
Yo me linga, oh, yo me linga. pas mal.